Accent d'Europe, Catherine Roland.
Bonjour à tous. Quelques jours après la fin de la Coupe du Monde, les Français savourent encore la victoire des Bleus et ils s'indignent aussi des commentaires racistes venus notamment d'Italie qui pleuvent sur l'équipe de France. Des singes avec un ballon, des champions du tiers-monde, des insultes qu'on peut lire sur les réseaux sociaux mais aussi dans la presse transalpine de façon totalement décomplexée. Quand ce n'est pas le ministre de l'Intérieur lui-même qui vante la pureté de l'équipe croate. 95 000 Italiens ont d'ailleurs déjà signé une pétition pour demander une motion de censure à l'encontre de Matteo Salvini. Il dénonce sa politique agressive contre les migrants. La pétition ne parvient pas pour le moment à réunir assez de voix au Parlement pour que la motion de censure devienne effective. Mais elle témoigne du malaise d'une partie de la population face aux propos racistes qui fleurissent dans le discours politique et dans la vie quotidienne. Reportage à Turin et d'abord dans la communauté sénégalaise, Cécile Debarge.
Ils sont nombreux à travailler ou étudier dans la grande ville industrielle du nord de l'Italie. Les immigrés se sentent aujourd'hui stigmatisés, à commencer par la communauté sénégalaise que nous rencontrons en fin de journée. En petit cercle, chacun prend la parole et commente la rhétorique anti-migrant du ministre de l'Intérieur, Matteo Salvini.
Il dit « la belle vie est finie, mais on ne l'a jamais eue ». Quelle belle vie ils ont eue, ceux qui sont arrivés sur un bateau. On verra bien dans les faits ce qu'il fera.
Papa Codefal a 31 ans, dont plus de 10 passés en Italie. Cette expression qu'il reprend, « la belle vie est finie », est devenue le leitmotiv de Salvini dans son combat contre les migrants. « Fini aussi les croisières en Méditerranée », a promis le ministre de l'Intérieur en parlant des bateaux qui portent secours aux migrants en mer. Autant d'invectives malhonnêtes pour Mor Ndiaye, étudiant de 20 ans, arrivé 8 mois plus tôt en Italie.
Ils prennent les immigrants comme bouc émissaire. Ils nous parlent du racisme et autres. Mais c'est juste pour cacher les vrais terribles problèmes de la vie quotidienne des Italiens.
Depuis la formation du nouveau gouvernement le 1er juin dernier, pas une semaine sans que les journaux ou les réseaux sociaux ne mentionnent une agression verbale ou physique à caractère raciste. Pourtant, le phénomène n'est pas nouveau, explique Papa Madiene Diop, un jeune fraiseur-soudeur de 23 ans, vivant en Italie depuis 10 ans et qui a dû supporter les propos racistes de certains collègues.
Sur ton lieu de travail, il y en a qui te le disent ouvertement, surtout quand tu es immigré et que tu es le seul étranger à travailler là. Ils te regardent d'une de ces manières, tu peux même pas imaginer. Et puis au bout de 2 ou 3 mois, la situation se calme quand ils comprennent qui tu es vraiment. Mais avant, ils font leur possible pour te faire partir.
Des comportements qui sont de plus en plus visibles depuis quelques années, selon Francesco Licciandra, président de l'association 3.0, à l'origine de l'événement annuel antiraciste Turin se réveille antiraciste.
Adesso se uno deve dire...
Aujourd'hui, si quelqu'un veut prononcer le mot « nègre » en disant « ah là là, c'est nègre », il le dit en toute tranquillité, il le dit sans même sentir le besoin de se cacher.
Et Lage Diouf est médiateur culturel. Pour lui, la libération de la parole raciste a fait l'effet d'un détonateur.
Tant que ça se limite à des discours, ça entre dans une oreille et ça se bloque. Mais si ça se manifeste par des actes d'assassinat, alors si... de rejet de l'autre par rapport à une demande d'embauche, par rapport à une demande de renouvellement d'un permis de séjour, par rapport à beaucoup de choses, à une demande d'aide sociale ou par rapport à beaucoup de choses, ça devient dégoûtant, bien entendu.
Les actes d'assassinat, c'est ce Sénégalais abattu à bout portant à Florence au mois de mars ou bien la fusillade de Macerata au mois de février qui a fait 6 blessés. Dans l'écrasante majorité des cas, ce sont les Africains subsahariens qui sont pris pour cible. Car contrairement à d'autres pays où le discours raciste se fonde sur la religion, en Italie, c'est précisément la couleur de la peau qui est pointée du doigt, décrypte Luciano Scagliotti de l'association Altera, qui fait partie du Bureau national contre les discriminations raciales.
Construire une rhétorique xénophobe sur la religion ne serait pas très efficace. Parce que la religion, même si elle est différente, reste légitime pour les Italiens. Mais pointer la concurrence, ou en tout cas la concurrence présumée au niveau du travail, des prestations sociales, c'est un argument qui fait mouche et c'est quelque chose auquel les Italiens sont très attachés.
Cet argument est simple, les immigrés nous volent notre travail ou tirent vers le bas le marché du travail déjà mis à mal par la crise. Un discours social que Matiba comprend.
Anche italiani, non è che... Les Italiens, parfois on peut les comprendre, ils défendent leurs droits. Mais c'est vrai que j'entends des propos racistes tous les jours, dans le bus, au marché, partout. Mais ça m'est égal.
Pour enrayer ce discours, peu d'options possibles, explique Luciano Scagliotti. Si ce n'est de résoudre le problème à la racine et de déconstruire les arguments de certains groupes d'extrême droite comme Casapande, qui répètent sans cesse « les immigrés passent avant vous, ils profitent de vos droits sociaux ».
Dans certains quartiers, Casapande offre de vrais services aux citoyens et ils s'y rendent même s'ils ne partagent pas leurs idées. On ne désamorce pas ce phénomène en cassant leurs locaux ou en leur envoyant la police, en aucun cas. La seule chose à faire, c'est de créer pour ces gens d'autres points de repère.
Pour l'association des Sénégalais de Turin, l'AST, le plus grand combat à mener aujourd'hui est celui contre l'ignorance d'une partie de la population. Et c'est précisément en informant et en communiquant encore et toujours que la situation pourra changer. Sur son site internet Chronique du racisme ordinaire, l'association Lunaria recense tous les événements à caractère raciste qui émaillent la rubrique faits divers de la presse italienne. Le dernier en date remonte au 12 juillet à Latina, à 70 km au sud de Rome. 8 Nigérians qui attendaient le bus ont été pris pour cible par un tireur équipé d'une carabine à air comprimé. 2 d'entre eux ont été blessés.
How many kinds of sweet flowers grow in an English country garden? I'll tell you now.
La bonne santé de l'agriculture anglaise malgré l'épée de Damoclès que constitue le Brexit. Selon les derniers chiffres du gouvernement, les revenus agricoles ont augmenté de 41% de 2016 à 2017 pour atteindre les 6,5 milliards d'euros. Un chiffre dû en partie à la faiblesse de la livre sterling qui, de fait, augmente le montant des contributions européennes et permet donc les investissements. C'est une aubaine pour les exploitants mais aussi pour les zones rurales. Ils bénéficient de la diversification des fermes et des créations d'emplois. Exemple à Fen Farm dans la région du Norfolk, à l'est de l'Angleterre. Depuis 3 générations, la famille Crickmore produit du lait. Elle le transforme désormais en produits laitiers comme le fromage ou bientôt les yaourts. Marie Billon l'a visité pour nous.
Le soleil tape fort sur les prés de Johnny Crickmore. Ses 300 vaches ont encore bien de l'herbe verte à brouter, même si beaucoup se retrouvent au bord d'un grand point d'eau pour se désaltérer.
This is a French one here. She's one of my old favorites. We call this one Nelson.
Toutes sont des Montbéliards ou des croisés Montbéliard et Holstein. Johnny s'est défait de son troupeau de vaches à lait uniquement Holstein au début des années 2010 pour importer ses vaches françaises à double emploi, dit-il. Elles sont aussi connues pour leur fromage que pour leur lait.
It's really in the last...
Cela fait environ 8 ans que nous avons décidé de nous diversifier et de vendre des produits à valeur ajoutée à base de notre lait. Nous en avions assez de la manière dont nous étions traités par les grandes compagnies qui demandent aux producteurs de garder leurs prix au plus bas. J'étais tellement frustré qu'un autre fasse du profit finalement avec les fruits de mon labeur.
Avec son père, Johnny se demande alors s'il ne va pas changer de crèmerie. Le prix des œufs de poule élevés en plein air étant assez élevé à l'époque, il commence à aller demander conseil à certains exploitants.
L'un d'entre eux avait une petite cabane qu'il avait peinte comme une poule. Elle ressemblait vraiment à une cocotte géante. Elle était au bord de la route. Alors en passant, les voitures s'arrêtaient et les gens allaient acheter leurs œufs frais.
Ce qui a séduit Johnny dans ce concept, c'est qu'il se débarrassait ainsi de tous les acteurs qui le séparaient des acheteurs et qui avalaient une partie du profit en même temps. En 2012, il a donc installé son propre petit magasin.
Nous voilà dans notre petite boutique. Il n'y a que des machines automatiques, pas de vendeurs. Et là, au milieu, c'est pour acheter son lait. Et à côté, eh bien, une nouvelle acquisition, une machine à café, parce qu'on fait de très bons lattés avec notre lait.
On trouve aussi des œufs dans une des machines. Alors Johnny n'a jamais acheté de poule, mais pour aider un exploitant voisin, il vend ses œufs ici. Une dame entre justement, elle attrape 2 bouteilles et commence à les remplir. Elle a ses habitudes.
Je viens tous les jours ou un jour sur 2 depuis qu'ils ont ce magasin. J'aime bien soutenir les commerces locaux.
« Grâce à cette petite boutique sur le bord de la route, noire et blanche pour rappeler les couleurs de ses vaches, Johnny vend 40 000 litres de lait par an pour un chiffre d'affaires de 45 000 livres. Cette petite affaire lui a permis de se diversifier, sans compter la bourse du fonds européen Leader. Alors en 2014, il a commencé à faire du fromage, 34 000 tonnes l'an dernier.
We make a brie style cheese.
Du brie, ou plus exactement un fromage inspiré du brie de Meaux.
Should we go in there? Yeah.
Et justement, à quelques mètres de là se trouve la salle de confection de ce fromage.
Ça, c'est le lait qui est arrivé ce matin à 4 heures. Maintenant, c'est du lait caillé que je suis en train de séparer du petit lait. Je vais tourner les moules 3 fois dans la journée. Normalement, on aura fini de filtrer ces 2200 litres de lait caillé en 40 minutes. Ce lot ira ensuite en salle de maturation demain matin. Et le fromage reposera pendant 40 jours avant que nous le vendions.
Le Baron by God, c'est le nom du fromage, est un vrai succès.
Cette ferme a clairement fait connaître la ville de Bungay. Dans la région, tout le monde connaît notre histoire.
Nous faisons du beurre salé à l'ancienne. Nos ventes sont en constante augmentation et nous allons en fabriquer plus et faire du sans sel aussi.
Laura et Marc font partie des 15 employés que Johnny a pu embaucher grâce à la diversification de Fun Farm. Et ce que dit la jeune femme est vrai, la production va augmenter d'ici quelques mois, car Johnny a reçu une autre bourse du programme européen Leader.
Alors là, nous venons de quitter notre salle à fromage. Nous voici dans la cour de la ferme, en face de l'étable où nous trions les vaches. Et juste à côté se dresse la nouvelle structure qui sera bientôt notre nouvelle salle de fabrication de fromage. Elle devrait être prête pour septembre. Nous sommes pour l'instant limités dans notre production par la taille de nos locaux. Nous espérons la doubler et passer à 100 000 tonnes par an. Dans les locaux vacants, nous continuerons à faire du beurre et peut-être même du yaourt.
Sans oublier qu'une artisane de la région a déjà accès un jour par semaine aux locaux pour faire son propre fromage avec le lait de Fun Farm. Elle aussi pourra potentiellement augmenter sa production, diversifier encore plus ses activités et créer encore plus d'emplois. C'est en tout cas le but de Johnny.
Et si vous voulez voir à quoi ressemble Fun Farm et ses vaches, rendez-vous sur Internet et Facebook avec le beau diaporama de Julia Cerron. C'est le résultat d'une étude de la revue américaine Science. 8 millions de tonnes de débris plastiques sont déversées tous les ans dans les océans, soit 250 kilos par seconde. Le Parlement européen doit voter en septembre une initiative pour recycler ce plastique. Des géants comme McDonald's réfléchissent à bannir ces déchets. Plusieurs pays ont déjà pris des mesures. En Grèce, sur l'île de Sikinos, ce sont les pailles en plastique qui sont interdites. Charlotte Stebnar.
Imaginez un couple assis tranquillement sur une petite terrasse ensoleillée de l'île de Sikinos, posée sur une table en fer forgé, deux verres presque vides, d'où s'échappent encore les arômes d'un café frappé. Cela sent les vacances en Grèce. Puis, comme souvent, une bourrasque emporte soudainement les deux pailles. Elles vont rejoindre leurs comparses qui polluent déjà les plages grecques et les fonds marins. Désormais, à Sikinos, c'en est fini de ces pailles en plastique. La petite île des Cyclades a décidé de les remplacer par des pailles biodégradables. Elles seront fournies gratuitement au commerce de cette île de 250 habitants jusqu'en 2019 par la fondation AC Laskaridis. La municipalité est la première à participer à ce programme appelé Sea Change. Il sera ensuite étendu à d'autres îles de la région. À Sikinos, cela fait 2 ans que le maire et les habitants essayent de changer leurs habitudes. L'année dernière, avant le reste de la Grèce, ils avaient déjà organisé une campagne pour remplacer les sacs en plastique. Une façon aussi de travailler sur son image pour cette municipalité qui a inauguré cette semaine une liaison quotidienne en ferry depuis le port de Raffina près d'Athènes. Elle cherche, semble-t-il, à allier protection de l'environnement et développement d'un certain type de tourisme. Une stratégie gagnante déjà appliquée depuis 30 ans par la petite île de Tilos dans le Dodécanèse.
Un Un été où l'on tente de se préoccuper de l'environnement. En Grèce, ce sont donc les pailles. En Albanie, ce sont les lynx des Balkans. Quelques dizaines survivent seulement à l'état sauvage. L'espèce est menacée d'extinction, Louis Seyé.
Difficile d'accès, les reliefs du nord-est albanais abriteraient les dernières populations sauvages de lynx des Balkans. Ilir et son association PPNEA travaillent depuis plusieurs années sur ce mystérieux félin aux mœurs nocturnes.
Le lynx des Balkans est une sous-espèce du lynx eurasiatique. On le retrouve en Albanie, en Macédoine et peut-être au Kosovo. Nous n'avons pas de chiffres exacts, mais en Albanie, sur la base de notre étude et des informations relevées par nos pièges photographiques, nous avons identifié 4 ou 5 individus.
Selon l'Union internationale pour la conservation de la nature, seule une quarantaine d'individus vivraient encore dans leur environnement naturel. Depuis 2015, le lynx des Balkans est classé en danger critique d'extinction, car bien des menaces pèsent sur sa survie. Cemal Djeri, membre de PPNEA, montre la forêt en piteux état.
Depuis de nombreuses années, dans toute l'Albanie, mais surtout dans cette zone, les coupes sauvages se poursuivent malgré l'interdiction. La dégradation de son habitat, le braconnage, participent à la disparition du lynx.
L'ONG PPNEA a récemment déposé un dossier mêlant protection de la biodiversité et tourisme rural. Pour le lynx des Balkans, les jours sont comptés.
Thank you very much for playing this record. Thank you very much. Thank you very, very, very much. Thank you very much for playing this record. Thank you very, very much.
Musique.
Et on remercie aussi Vincent Théval. Bonjour Vincent.
Bonjour Catherine.
Vous nous proposez, avant les rediffusions de l'été, cette nouveauté venue d'Italie.
Je vous propose aujourd'hui de faire la connaissance d'une chanteuse italienne voyageuse, Chiara Civello. Elle est née en 1975 à Modica, mais elle quitte l'Italie dès ses 18 ans pour intégrer le prestigieux Berklee College of Music de Boston. C'est là, puis à New York, qu'elle découvre les musiques des diasporas africaines qui vont nourrir son inspiration dès son premier album en 2003. Mais le vrai tournant, c'est sa découverte du Brésil et ses rencontres avec Tom Jobim, Gilberto Gil ou Caetano Veloso. Aujourd'hui, Chiara Civello partage son temps entre l'Europe, les États-Unis et le Brésil, et on l'entend parfaitement au fil de ses chansons, comme cette Cuore in Tasca, avant-goût d'un nouvel album prévu cet automne. Et en attendant, vous pourrez la croiser cet été sur scène aux côtés de Gilberto Gil.
Pioggia tropicale, foglie sui viali, passa una cometa, illumina i tuoi occhi. Fissano le gocce sulla mia maglietta proprio nel momento esatto in cui mi dici che vuoi andare via da qui e vuoi ballare con il temporale come gli alberi. Tropicale, porta via un giornale, ci lascia da soli proprio in quel momento. Tu, sulla strada vuota, piano ti allontani sotto le finestre stanche, senza voltarti più. E poi
on plonge dans l'été avec les airs de Chiara Civello. Merci de nous avoir suivis toute cette semaine et toute cette saison à la réalisation. Bien sûr, il y avait Françoise Grelot. Vous pouvez nous retrouver sur RFI.fr et sur notre page Facebook. Lundi prochain, nos rediffusions estivales. Et on se retrouve tous en direct le lundi 3 septembre. À très bientôt.
Di guardarsi o di scegliere e vuoi